Bon matin à tous. Oui, David versus Acab. Ce matin, on va prolonger dans la suite du livre des Sans Essentiels. Ah, merci. Et le thème pour ceux qui suivent, là, qui sont dedans, on est rendu à la chute d'Israël. Et j'ai décidé de mettre en opposition deux rois en particulier. Que donc mon message, je pourrais l'appeler David versus Acab. Puis s'il y en a qui se rappellent, j'ai déjà fait un message qui était David contre Goliath, et là c'est David contre Acab. Donc c'est ah oui, merci. Mais en même temps, c'est comme avertissement, c'est le qu'on pourrait mettre en avant d'un message. Et je vais vous inviter à marcher sur l'eau avec moi, mais on va pas dehors, là, inquiétez-vous pas. Mais sur l'eau de la foi, c'est-à-dire que je vais vous présenter, j'ai traversé des informations qui peuvent susciter le doute, puis je vais vous exposer ça. Mais au travers de ça, je nous invite à découvrir qui était pour moi une merveille de la foi et qui affermit personnellement ma foi. Mais c'est juste pour dire que je vais vous donner des informations qui sont utilisées des fois par d'autres pour dire « Ah, voilà, la Bible est mentrice. » Parce que la Bible est pas menteuse, mais les autres peuvent dire qu'elle est mentrice. Ça n'existe pas ce mot, mais... C'est pour ça, je me dis, si je dis « la Bible est mentrice », je dis rien de mal parce que c'est un mot qui n'existe pas. Mais on va découvrir que la Bible, est, en fait, est vérité, que c'est la parole du Seigneur. Il faut trouver des stratégies. J'ai un arrière-fond pharisien, hein, moi, qui cherche des façons de faire les choses sans être blâmé. David. J'aimerais qu'on commence d'abord avec David. Alors, David, vous pouvez le lire à l'écran. Ça, c'est dans le livre des Actes que Paul dit, justement, il cite Dieu en disant « J'ai trouvé... David, fils d'Isaïe, un homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. » Et il me vient la question, mais qu'est-ce qui a fait que David est devenu un homme selon le cœur de Dieu? Qu'est-ce qui a fait que David est devenu un homme à ce point marquant que Dieu va dire « J'ai trouvé un homme selon mon cœur » et que ce soit un homme, un roi, qui va faire une marque continuelle qui s'effacera jamais. Donc, si on lit les livres des rois et des chroniques, on va souvent dire, comme on le voit pour Acab, hein, ça dit « Acab, fils d'Omri, fils qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. » Mais parfois, quand il y a un roi qui était pas si mal, on va dire « Ah, lui, il a pas été si pire, mais il a pas été comme David. » Et c'est arrivé quelques fois qu'on va nous dire, mais il n'a pas été comme David. Alors David, il reste un homme qui était à ce point marquant qu'on nous dit, voici un homme selon le cœur de Dieu. Alors je vous laisse y méditer quelques secondes. Mais je ne sais pas si je vais vous demander de répondre parce que quand je prêche puis vous répondez, là, je n'ai plus rien à dire. Alors, je vais demander trois réponses. Trois réponses. Est-ce que quelqu'un aurait une idée? Pourquoi David était nommé un homme selon le cœur de Dieu? Mm-hmm. Parce qu'il prenait beaucoup de temps pour prier, il prie Dieu, puis il s'attend à Dieu. Il y a des attentes envers Dieu, il est à l'écoute de Dieu. C'est une excellente réponse. Oui, qu'à Arminia. Il cherchait toujours la directive de Dieu. Amen. Et j'ai quoi, Jean-Pierre? Ah, il était transparent et sincère. Amen. Bon, vous avez toutes dit bonne réponse. OK, on saute à l'autre. Mais en effet, mais prenons le temps de remarquer la merveille que ça représente. David est un homme selon le cœur de Dieu, puis en effet, ça ne nous est pas dit clairement comme ça tout de suite. La réponse ne nous est pas dévoilée d'un coup comme ça. Voici David, pourquoi David est un homme selon le cœur de Dieu. Il nous faut nous-mêmes avoir sillonné les Écritures pour découvrir que David, qu'est-ce qui fait que David est un homme selon le cœur de Dieu. Si on se fie juste aux apparences, on va se dire, ah, peut-être parce que David... il a planifié faire construire le temple, mais il l'a pas fait. Peut-être parce qu'il a gagné des guerres. Peut-être parce que il avait été, si on pense à des éléments vraiment étranges, mais il avait rempli le défi d'aller circoncire plusieurs milliers de Philistins et de rapporter à Saül. Hein, non, c'est pas pour ça qu'il est un homme selon le cœur de Dieu. Est-ce que c'est parce qu'il était un chef de brigands? Hein, est-ce qu'on réalise que David était, avant de devenir roi, pendant que Saül était encore roi, David était un chef d'une horde de brigands, en fait. C'est-à-dire que tous les rejetés de Juda et d'Israël se joignaient à lui, et parce qu'ils s'identifiaient à lui, mais David avait une relation avec le Seigneur, et c'est pas pour ces raisons que David était nommé homme selon le cœur de Dieu. C'est parce que, justement, à la lumière des psaumes en particulier, il parlait à Dieu, il s'exprimait à Dieu, il était, qui a dit transparent, c'était Jean-Pierre qui a dit transparent, qu'il cherchait Dieu pour les directives. Et on peut trouver un peu le même écho, parfois on lit le livre de Job, puis on a de la misère à comprendre. En fait, moi je me rappelle, la première surprise que j'avais en lisant le livre de Job, c'est d'arriver à la fin, puis que Dieu dit, voilà Job, lui il a bien répondu. Alors que je me souviens, j'étais jeune croyant, et là, je lisais, puis il me déprimait tellement, Job, j'allais lire ses amis, il me semble ses amis sont, tu sais, c'est encourageant, eux autres, tu sais. Puis à la fin, Dieu dit, Job, il a bien répondu, vous trois, vous êtes des patates. C'est moi qui paraphrase. Mais pourquoi Dieu approuve Job? C'est parce que Job, il parle à Dieu. Il crie à Dieu, il s'exprime à Dieu, il cache pas ses doutes à Dieu. Hein? Tout comme Michel nous le répète souvent dans les psaumes, hein, comment David il peut être rude avec Dieu. Si mes enfants me parlaient comme David parle à Dieu, il me semble que ça chaufferait un petit peu, ou en tout cas, ils iraient dans leur chambre. Et le Seigneur, lui, il dit, merci, c'est ça que je veux que tu viennes me parler comme ça. Et c'est ce qui fait une marque dans la vie de David, puis qui nous suit tout le long des Écritures. David y ressort continuellement. Et il revient toujours comme un modèle, comme un exemple. Et pourtant, est-ce que David était un bon père de famille? C'est un peu douteux. Est-ce que David a été un homme toujours sincère, heureux en amour? Non, il y a toutes sortes de défauts. Il reste que malgré ses fautes et ses péchés, Dieu le déclare un homme selon mon cœur parce qu'il revient toujours au Seigneur. Pourtant, je vous amène un peu en archéologie. Là, c'est un dessin, en fait, de ce qui pourrait être... Mais ça paraît pas bien, hein? Je suis désolé. De ce qui pourrait être la cité de David. Dans Jérusalem, il y a une partie de la ville qui sur le bord du mont. Peut-être Michel a des photos, peut-être qu'il a vu ça, mais il y a une partie qui s'appellerait la cité de David, qui est juste en bas. On voit peut-être pas bien, mais en haut, il y a le dôme, là, la mosquée qui a été construite au lieu du temple. Et donc, c'est en descendant de là, ça s'appelait la cité de David. Or, les archéologues que j'ai lus, j'ai des articles ou des livres ou même sur l'Internet, font tous une mention, ils peuvent pas descendre jusqu'à les années de David. Quand ils creusent puis qu'ils arrivent aux années de David, il reste plus rien. Il y a plus de traces de David. Là, tout récemment, ils ont trouvé un petit bout de mur qui disent, ah, peut-être que ça date de l'époque de David, mais il n'y a rien qui peut prouver ça de façon clairement. Mais les archéologues puis les chercheurs, ils cherchent tellement, mais en cherchant un peu partout, puis avec toutes les évidences qu'ils ont trouvées, ils en sont venus à dire peut-être que David n'a jamais existé. On trouve pas de trace de David. David, on le voit pas. Je vous demande de rester avec moi sur l'eau, d'accord? Il y a peut-être des vagues, je sais pas où est votre foi, mais c'est les découvertes historiques nous disent on ne sait pas si David a existé. Et bon, si quelqu'un est mal intentionné, comme certains parfois historiens ou non chrétiens ou non juifs aussi, parce que David c'est appartient au judaïsme aussi, ben ils vont prendre plaisir puis dire ah voilà ça n'existe pas, hein, la Bible est mentrice. David n'a pas existé, on n'arrive pas à prouver qu'il existe, on trouve aucune trace de lui, donc ça doit être un mensonge. C'est une invention du judaïsme pour rallier les gens, pour tromper les gens peut-être. Et donc dans l'histoire, on trouve peu de choses. En fait, comme je dis, on trouve rien. Peut-on dire heureusement, de façon fortuite? On a découvert. As-tu marché? Ah, voilà. On a découvert un caillou. On a découvert cette stèle dans le nord de la Palestine. Ça s'appelle à Tel Dan, donc dans là où il y aurait la tribu de Dan, près du lac de Tibériade, tout au nord d'Israël. On a trouvé cette pierre écrite par un roi étranger pour un roi étranger. Et là, où est-ce que c'est une petite trace blanche que vous voyez, c'est la seule mention historique archéologique qu'on a que ça dit, je pense que gagner une victoire contre la maison de David. Encore là, ça nous parle pas de David, mais on nous parle de la maison de David. Et c'est la mince preuve archéologique historique que David a existé. Encore là, c'est-à-dire qu'il y a eu une famille qui s'appelait la maison de David. Donc, on assume que le grand-père de cette famille-là était David. Ouais. Tout à fait, exactement. Donc, c'est comme Marc qui dit qu'il y avait une armée pour avoir fait une guerre et que c'était donc une famille royale, un chef d'État. C'est la mince trace qu'on a du règne du roi David, qui pourtant, dans les Écritures, hein, je l'ai dit, c'est un homme selon le cœur de Dieu. On le retrace partout. Mais est-ce qu'on trouve des beaux palais du roi David? Est-ce qu'on retrouve des châteaux qu'il aurait pu construire? Non, on n'a pas trouvé. Est-ce qu'on a pu trouver des vestiges majestueux, des statues? Si vous trouvez une statue qui s'appelle David, mais en fait ça c'est en Italie, je crois que c'est à Florence, ce n'est pas du roi David. D'accord? Non, on trouve historiquement, archéologiquement, on trouve presque rien. David est presque invisible. Allons voir Akab. Donc je vais vous poser Akab, est-ce qu'il était un homme selon le cœur de Dieu? Faut que je pointe quelque part. Oh, voilà. Okay. Alors, dans 1 Roi, chapitre 16, verset 30, ça nous introduit Akab. Et on prononce Akab, parce qu'apparemment qu'en hébreu, le CH, ça doit se prononcer K. Mais si vous le dites en anglais, ça nous fait... les CH devraient. Mais bon, ce n'est pas une histoire sur les lettres que je vais vous parler. Alors, Akab, le fils d'Omri, fils qui est mal aux yeux de l'Éternel, plus que tous ses prédécesseurs. Le livre. Et là, si on consulte, je ne sais pas si vous avez lu l'histoire avec Élie. Je vais tourner dans 1 Roi 16, pardon. Je vais me promener un peu dedans. Qu'est-ce que fait de mal Akab? pour dire qu'il était pire que ses prédécesseurs. Qu'est-ce qu'il a fait de terrible? En effet. Donc, une des choses que Jean-François il souligne, il a fait tuer des prophètes, il a lancé une persécution contre ceux qui, les prophètes de l'Éternel, qui adoraient d'autres dieux. Ouais, c'est ça. Il a adoré Baal, il s'est incliné devant Baal. Ça dit aussi qu'il a prolongé les fautes de Jéroboam, je crois. Attendez, j'ai oublié. Ouais, en effet. Dans 16:31-32, ça nous décrit ces idolâtries qui a introduit aussi le culte Asherah, qui était la, excusez-moi, l'épouse de Baal. Et c'est ça, je voulais voir 31, ça dit, non content d'imiter les péchés de Jéroboam. Jéroboam, qu'est-ce qu'il avait fait, lui? Il avait construit deux veaux en or, puis il a dit, voici l'Éternel, votre Dieu. Et ils avaient placé à deux endroits. Ce que je veux dire, ce qui est un peu étrange, c'est qu'il faut quand même réaliser que pour les Israélites de cette époque-là, qui adoraient des veaux d'or, ils appelaient pas le veau d'or veau d'or. C'était pas, nous adorons veau d'or. Ils allaient voir le veau d'or et ils disaient l'Éternel. Alors, à quelque part, ils étaient quand même en train de, dans leur tête à eux, ils étaient en train d'adorer l'Éternel. Mais ils adoraient une statue, finalement. Et c'est ça qui est le péché de Jéroboam. Et c'est ce qui fait que le nom de l'Éternel restait présent dans le parmi les Israéliens, les Israélites, pardon. Et donc il a poursuivi l'idolâtrie, il en a ajouté en faisant alliance en fait avec les Phéniciens parce qu'il a marié Jézabel et qui a donc fait alliance avec une femme avec un peuple étranger. Il l'a marié et il a permis à Jézabel d'amener son culte à ses dieux et de continuer l'idolâtrie. Ce qui est impressionnant de Akab qui, en plus de permettre l'idolâtrie, c'est qu'il va, il va régner pendant 22 ans. Il va avoir un règne pendant 22 ans. Son père, Omri, qui a fait un putsch puis qui a obtenu le pouvoir, a régné pendant, je crois, une dizaine d'années, j'ai pas juste vérifié. Mais ils sont devenus c'est une petite dynastie qui est restée. Et, mais c'était, ils ont un rayonnement dans la région impressionnant. Même on peut voir, je crois, c'est après notre texte, dans nos textes des essentiels, ça a arrêté à 19, je crois, mais juste à 20. Ça nous décrit une victoire sur les Syriens, sur les Assyriens. Et dans sa victoire, le roi Ben-Hadad, je crois, il va fléchir, il va être vaincu par Akab, puis il va dire à Akab, si tu me laisses la vie, je vais te permettre d'avoir un comptoir dans Damas, donc de venir faire du commerce chez nous. Et donc Akab avait un rayonnement international et il y avait des traités de libre-échange, on pourrait quasiment dire, c'était pas de libre-échange, mais et donc il pouvait apporter la prospérité dans le royaume du Nord parce qu'il pouvait faire du commerce comme ça à l'étranger. Archéologiquement, maintenant, qu'est-ce que ça nous donne sur Akab? Pardon. Il faut que je sois patient. Merci. Oui, merci. Ça fait que on en connaît un petit peu plus sur Akab. Bon, faut dire qu'il est plus proche de nous. Je sais pas combien de dizaines, de centaines d'années que Akab est plus proche de nous historiquement. Mais ici, on a, par exemple, ça c'est une stèle chez les Moabites. Dans le pays de Moab, Omri, le père de Akab, avait conquis le pays de Moab. Et après la mort de Akab, le roi s'est rebellé, le roi de Moab s'est rebellé contre la famille d'Omri, et il y a eu une victoire. Et c'est là qu'il a construit une stèle comme ça, sur laquelle il est écrit quelque part. Je ne sais pas souligner, mais je ne sais pas lire non plus. Je fais confiance aux autres. Mais c'est écrit, le roi, il dit, moi, Mécha, je me trompe pas. Oui, il me semble bien que c'est Mécha. Roi de Moab, j'ai vaincu la famille, la maison de Omri. Et, attendez. Ah oui, j'ai vaincu la famille de Omri et leur dieu Yahvé. Alors ça, c'est un côté qui est intéressant, c'est que c'est une première marque qu'on trouve du nom de l'Éternel en dehors de la Bible, en dehors des textes judaïques, si on pourrait dire. Puis c'est pour nous citer la victoire du roi de Moab. Ce qui est intéressant, c'est que la Bible nous dit aussi qu'après la mort de Akab, le fils de Akab, en fait, il a perdu. Puis bon, il y avait une prophétie qui nous disait justement que Élie a donné une prophétie à Akab en disant « Toute ta famille va être exterminée. » Ah, merci. Donc ça, c'est intéressant parce que là, ici, on a un point archéologique qui corrobore ce que la Bible dit. Mais ce qui est quand même reste étrange, c'est que ça nous dit pas Akab en personne, mais ça nous dit la même tradition que l'autre, la maison de Omri. Mais quand on va plus loin dans j'ai pas le doigt, hein, c'est ça? Faut-tu que je fasse la flèche, là? Ah, voilà. À la toute fin du règne, dans le texte ici, je vais vous le trouver. C'est 1 roi 22, verset 39. Akab vient d'être tué pendant une guerre. Et au verset 39, ça nous dit juste la dernière épitaphe, on pourrait dire. Les autres faits et gestes d'Akab, toutes ses entreprises, le palais d'ivoire qu'il fit construire et toutes les villes qu'il fortifia sont citées dans le livre des Annales des Rois. Et donc, les Écritures nous citent qu'il a construit un palais d'ivoire. Or, à Samarie, on a trouvé de l'ivoire. On a trouvé, ça c'est tout des petits, des miettes, là, mais tout des morceaux qui ont été trouvés archéologiquement qui nous prouvent que Akab a vraiment été un roi. Mais en fait, que ce que la Bible nous dit est vrai. Mais on trouve les marques. Ce qui est un peu décevant, c'est que selon l'archéologie, qui était un roi impressionnant, réel, puis qui a vraiment existé, c'était Akab, ou la dynastie d'Omri. On trouve aussi d'autres... Oh, voilà. Ça aussi, c'est en ivoire. Et ça aussi, ça a été trouvé à Samarie. Et on assume donc que... En fait, c'est là que je trouve ça vraiment fascinant, parce que les archéologues qui s'amusent à dire « Ah, vous voyez, la Bible est mentrice. » Mais là, ils disent « Ah, vous voyez, ça, c'est certainement l'époque de Akab, parce que c'est en ivoire, puis la Bible nous dit que c'est en ivoire, tu sais, que c'est lui qui a construit l'ivoire. » Mais après ça, ils s'amusent ils sont bien contents de dire que la Bible est fausse, mais ils se fient justement aux Écritures pour dire « Ça date de l'époque de Akab. » En même temps, on peut voir que justement, c'est un sphinx, je sais pas de quel endroit, on peut voir que c'est des éléments d'idolâtrie de d'autres cultures qui ont été introduites dans le culte, dans la ville en tout cas de Samarie, qui était permis par le roi Akab, comme qu'on voit. Celui-là, c'est ce qui m'a plus impressionné. Ils ont trouvé aussi un sceau. Le sceau, hein, c'est quand on met la marque pour signer. Et là, ça nous explique toutes les lettres hébreues qui sont là. Et en bas, c'est écrit, c'est le sceau de Jézabel. Quand tu mets les lettres ensemble, ça peut se lire Jézabel en bas. Les Grecs, les lettres là, YZBL pour Jézabel. Donc, on a de façon incroyable, on a une preuve que Jézabel a existé. Il y a vraiment eu quelqu'un. Encore pour mettre en opposition, on n'a pas trouvé de preuve pour l'existence de David. On n'a pas, David, il est inconnu historiquement. il est effacé. C'est juste heureusement qu'il y a un roi étranger qui écrit « Ah, j'ai vaincu la maison de David », sinon on n'aurait peut-être pas su que David est là. Alors que Jézabel, Acab, on a des marques d'eux, on trouve des vestiges d'eux. Ils étaient un couple royal qui a fait sa marque dans l'histoire, dont on trouve les traces, et dont même si on suit les découvertes archéologiques, les archéologues ils déduisent donc que le peuple d'Israël à ce moment-là était prospère, que ça allait bien, qu'ils étaient bénis. Hein, ça allait bien. Il y avait du commerce à Damas. Ils avaient une alliance avec Tyr et Sidon par Jézabel. Il y avait du commerce extérieur. Il y avait la prospérité. Ça, c'était une époque agréable et bénie. Donc, ça, c'est ce que les historiens y tracent. Ils disent, si nous, on regarde dans la terre, on va dire, Acab est un plus grand roi que David. David, on ne le trouve pas. David, on le voit pas. Puis si ce qu'on trouve de l'époque de David, ben ça devait être une petite campagne, des petits paysans, ça devait être des gens qui en arrachaient, ils tiraient la bougie, comment tu dis, ils brûlaient la bougie par les deux bouts. Tu sais, ça devait être pénible. Mais dans le temps d'Acab, waouh, c'était la prospérité. Tu sais, on voit que on trouve des traces de poterie pour transporter de l'huile. Israël était reconnu pour l'huile d'olive. Donc, on trouve des traces ailleurs dans la région, là, mais en dehors des frontières de terre d'Israël. Donc, selon l'histoire, Acab, c'est un grand roi. Puis, comme je dis, ceux qui sont pas croyants, ils s'amusent à dire, ben, aha, on voit que la Bible est toute à l'envers, est toute de travers. Restez avec moi sur l'eau, vous n'êtes pas trop débalancé. Donc, je pense que c'est pas trop pire. Je crois que j'ai une autre photo de... Merci. J'ai pas une grande résistance aux cailloux. Hein. Ah, merci. Ah, attendez, on va attendre alors. On recule, s'il vous plaît. Merci. Donc, est-ce qu'on devrait essayer devrait se laisser impressionner par l'histoire, les découvertes? D'abord, on peut pas les nier, on peut pas dire non, c'est pas vrai, ça a été vraiment trouvé, c'est du caillou, hein? Ou c'est de l'ivoire, c'est quelque chose qui reste. Est-ce qu'on devrait donc essayer de réécrire la Bible et de l'écrire autrement? Est-ce qu'on devrait se laisser impressionner et dire, ben peut-être que finalement à Acab, il y avait des valeurs cachées qu'on savait pas, tu sais? Parce que peut-être si on réfléchit, peut-être qu'on aimerait mieux vivre dans l'époque d'Acab. Tu sais, si Acab, ça allait bien puis c'était prospère, peut-être nous, on voudrait être fidèles à l'Éternel, mais on serait content de vivre dans l'époque d'Acab. Tu sais, alors que l'époque de David, si c'était maigrichon, pauvre, puis des hordes de bandits qui se promènent, puis là, t'as le roi David, tu dis, il est de quel bord, lui? Puis là, tu vas voir le roi pour une cérémonie religieuse. Hein, parce qu'il fait rentrer l'Arche de l'Alliance, puis là tu vois le roi qui danse presque tout nu. C'est ça qui se passe dans les Écritures, hein. Et sa femme, la fille de Saül, est offensée de voir David qui danse presque tout nu devant l'Arche de l'Alliance. Puis je dis presque parce que la Bible, elle dit même, mais ça semble sous-entendre que les vêtements volent de partout, puis tu sais, mais il fait ça en l'honneur de l'Éternel, puis la fille de Saül est offensée, puis elle dit Non, je peux pas accepter que mon mari, le roi, fasse ça, tu sais. Peut-être qu'on se dirait, mais tu sais, il me semble qu'on aimerait mieux vivre à l'époque de Saül et Jézabel, finalement, tu sais. Oui, je sais que les prophètes de l'Éternel, faut qu'ils se cachent, mais au moins on va avoir de l'argent dans nos poches. Non? Tant mieux. Mais si on essaie d'être une fois sincère, faut pas cacher nos réflexions devant le Seigneur puis dire, ben Seigneur, moi finalement, de quel côté je voudrais me retrouver, sous quel roi est-ce que je serais prêt à vivre, dans quelles conditions si je vivais dans cette époque-là, est-ce que je reconnaîtrais que le roi David était un homme selon le cœur de Dieu? Et est-ce que je reconnaîtrais que Achab, qui amène la prospérité dans son pays, était pire que de ses prédécesseurs, qui a prolongé les péchés des autres? Je reviens à ma question entre David et Achab, et là je vous amène au Seigneur Jésus-Christ. Là, on va avancer, s'il te plaît. J'aime les relations humaines, c'est pour ça que... Et je sais que vous êtes en train de lire, mais on va lire qu'est-ce que Jésus dit sur les rois, puis les dictateurs, les despotes, qu'est-ce qui est la réalité, dans Matthieu 20. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, « Vous savez que les chefs des nations dominent sur les nations et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Ce ne sera pas le cas au milieu de vous. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » À la lecture de ce texte, qui semble complètement pas rapport avec la royauté, à part que ça dit que les chefs des nations, tyrannisent les nations. J'aimerais vous demander, êtes-vous surpris que le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus a choisi un homme presque invisible historiquement comme David pour dire que c'est un homme selon son cœur? Sommes-nous surpris que Dieu le Père de notre Seigneur Jésus a choisi un homme qui finalement on trouve presque pas de trace dans l'histoire pour dire « voici ça c'est un homme selon mon cœur ». Sommes-nous surpris que de la même façon que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ dise à Achab, qui est un homme qui rayonne, qui a des alliances partout autour de lui, ben c'était un roi pire que ses prédécesseurs. À la lumière de l'évangile de notre Seigneur Jésus, est-ce qu'on est surpris de ne pas trouver de trace du roi David? Surtout quand ici, justement, Jésus nous dit, parmi nous, parmi la communauté des croyants, dans l'Église aussi, celui qui va être le premier, c'est le serviteur de tous. Alors que les rois, comme Achab, en fait, dominent les nations en les oppressant, en les surtaxant, en les exploitant, en les envoyant à la guerre. Alors que David, lui, que Jésus nous dit, le premier parmi nous, c'est le plus petit. C'est celui qui est serviteur de tous. Merci, en fait. Moi, j'étais émerveillé en réalisant que ici, Jésus nous a dit une parole qui est écrite là. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Ça dit-tu? Oui, les derniers seront les premiers seront les derniers. C'est toujours dans Matthieu 20. Puis, à la vérité, on se dit toujours, c'est quand Jésus va revenir qu'on va vraiment le voir, ça, tu sais. Alors, comment on peut prouver ça, que les premiers seront les derniers puis que les derniers seront les premiers? Est-ce qu'on a une preuve que c'est vrai? Est-ce qu'on peut constater ça? C'est quand même difficile, tu sais. Le premier ministre, c'est le premier ministre, puis moi, je suis le dernier ministre, puis tu sais, ça reste comme ça, tu sais. C'est les grands propriétaires de compagnies, c'est les grands propriétaires de compagnies, puis nous autres, on est les petits. Consommateurs même, en fait. On n'est peut-être même pas des petits employés, on était juste petits consommateurs. Puis, il nous semble que ça reste comme ça. Mais en lisant, en découvrant l'archéologie, qui s'amuse à semer des doutes sur l'existence de David, j'ai réalisé qu'en fait, David contre Achab nous prouve que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Celui qui était le dernier, le plus petit, le plus méprisable, le plus invisible, celui qu'on a la difficulté à trouver la trace, David, se trouve dans les Écritures partout comme le premier. Puis les Écritures, c'est comme une fenêtre sur le ciel. C'est une fenêtre du cœur de Dieu. Alors que Achab, je ne sais même pas si on le trouve ailleurs dans les Écritures, Achab. J'ai pas fait cette recherche-là dans une concordance. Je sais qu'on nous reparle de Jézabel ailleurs, mais Akab, on n'en parle presque pas. Il disparaît, Akab. On ne sait plus. Mais lui, il était premier plus que David. Il était impressionnant plus que David. C'était un vrai roi, là, si je veux dire. C'est impressionnant, là. Puis il y avait un beau palais, des beaux temples. Il y avait des chars, il y avait une armée. Il y avait même un chauffeur. Hein, si vous lisez dans le dernier combat, il dit au chauffeur de son char, ramène-nous à telle place. C'était un vrai, là, alors que David, il se cachait dans les grottes, même quand c'est à peine s'il peut se construire une maison, puis Dieu ne veut même pas qu'il construise un temple. Akab, il s'est pas privé, lui, il a construit un temple, puis il en a construit d'autres pour d'autres dieux, puis... Tu sais, c'était majestueux, Akab. Akab, qui semble être le premier, on voit dans le cœur de Dieu, il devient le dernier. Il devient effaçable, devient méprisable. Alors que David, qui était lui, historiquement, c'est un dernier, c'est un invisible. Lui, il devient le premier. Merci. Et ça, pour moi, ça m'émerveille. Donc, merci de marcher sur l'eau avec moi. On a vu des choses qui peuvent être des doutes. Ayons pas peur non plus des doutes, puis rouvrons notre cœur à découvrir qu'est-ce que Dieu veut nous émerveiller, veut nous découvrir, nous faire découvrir. Le défi maintenant, c'est à nous dans notre vie de tous les jours, c'est de dire, est-ce que je veux aujourd'hui chercher de mon vivant à être le premier, à être celui qui va dominer les autres, ou est-ce que je veux croire ce que les Écritures me révèlent finalement, que le premier seront les derniers, que les derniers sont les premiers, puis de découvrir, wow, même si j'ai l'impression d'être le dernier, le moins que rien, Dieu me réserve une place primordiale. Et peut-être parfois on voudrait se comparer, puis on peut regarder d'autres personnes qui y ont réussi, qui réussissent, puis on se dit j'aimerais être à leur place, puis finalement de réaliser, ben en fait je sais pas, je peux pas m'enorgueillir puis dire comme je suis, comme moi je prospère pas, j'échoue, je serai meilleur que lui, je peux pas m'enorgueillir de cette façon-là. Ah non, ça dit un peu ça. Dans Jacques, je l'ai pas écrit, je pense qu'on était rendu à la fin. Dans Jacques, ça nous dit que celui qui est riche s'enorgueillisse, se vante de son humiliation, et que celui qui est humble se glorifie de son élévation. Et on le voit ça, que dans les Écritures, au travers la vie de David et de Akab, on peut faire cette comparaison puis dire, oui, ces paroles d'humilité qui nous dérange, qui nous semble que j'entendais des athées qui disaient mais le christianisme c'est une religion de faiblard, de moumoune, de perdant, parce qu'on dit de s'humilier, on dit d'être humble, on dit de prendre soin des plus faibles, mais on découvre que dans le cœur de Dieu c'est une véritable force auprès du Seigneur. Et l'histoire de l'archéologie en fait nous prouve qu'aux yeux de Dieu c'est une vérité, que les premiers seront les derniers, mais que les derniers seront les premiers. Et que si aujourd'hui on est premier, puis qu'un jour on tombe dernier, ben Jacques nous dit, glorifie-toi-en! Glorifie-toi-en! Puis si aujourd'hui on est dernier, puis qu'on se retrouve premier, mais il dit, reste humble devant le Seigneur, tu sais, que celui qui est debout prenne garde de pas tomber. Mais donc, l'histoire semble vouloir mettre en doute l'existence de David, mais finalement, elle a prouvé les paroles de l'Évangile que Jésus nous a dites. Je veux nous laisser avec cette pensée-là, je veux pas aller plus loin. Je veux qu'on médite cette pensée-là, qu'on la garde, qu'on glorifie le Seigneur, puis dire « Oui, Seigneur, c'est vrai. » Peu importe là où je suis aujourd'hui, premier ou dernier, Et même si on pense que c'est méprisable là où on est, aux yeux de Dieu, c'est glorieux. Et de penser que si on considère que quelqu'un a lui, elle, c'est vraiment le dernier. Il n'y a rien à faire. Ils sont méprisables. Mais réalisons peut-être aussi que le Seigneur est peut-être caché là, dans leur vie. Et qu'on a le défi de s'en approcher puis dire, parce que c'est peut-être lui, elle, qui va être le premier demain auprès du Seigneur. Si on voit quelqu'un qui autour de nous qui nous semble méprisable, on semble sa foi est comme ça, quelqu'un qui est même pas là aujourd'hui, là, qui est peut-être même pas à l'église, mais qui combat quand même dans la foi, ben approchons-nous-en parce que qui sait, le dernier, celui que nous on juge le dernier sera peut-être le premier dans le royaume des cieux. Alors que celui qu'on juge le premier, eh bien, il sera peut-être le dernier auprès du Seigneur. Amen.